Et une nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons aujourd'hui des engagements du nouveau président des États-Unis en matière économique. Et donc, nous parlons d'économie mondiale. 10 jours après l'élection de Donald Trump et le choc politique qu'elle a provoqué, les interrogations sont nombreuses aussi sur l'application des réformes annoncées pendant la campagne. Négociation de l'accord de libre-échange nord-américain, taxation jusqu'à 45% des produits importés de Chine, réduction de la fiscalité sur les entreprises et sur les plus hauts revenus, accroissement des dépenses fédérales consacrées à la défense et aux infrastructures, curieux mélange au passage de politique de l'offre et de politique de la demande. Il faudra suivre aussi les résistances éventuelles, celles des partenaires commerciaux à l'étranger et en interne, celles des agents économiques, entreprises, investisseurs. Déjà, des réactions observées cette semaine contre le climato-scepticisme de l'administration, future administration Trump. Les entreprises sont nettement pour le maintien de la politique bas carbone. Mais commençons par un autre engagement qui pourrait bien avoir des répercussions encore plus fortes. Il s'agit de la dérégulation bancaire. Le président élu en fait une priorité. Il l'a réaffirmé vendredi 11 novembre dans un entretien qu'il a accordé au Wall Street Journal. Il a la ferme intention de revenir sur les mesures choisies par l'administration Obama en direction du secteur financier au lendemain de la crise qui a secoué notre planète. Pourquoi, comment et avec quels instruments? C'est notre sujet de ce matin. Oublié 2008, Donald Trump va-t-il déréguler la finance? Et nous recevons ce matin Catherine Dubochinski, professeure d'économie à l'Université de Paris 2, Panthéon, Assas. Dominique Plion, professeure d'économie financière à l'Université de Paris 13. Et membre d'ATTAC et des économistes atterrés, on va tout dire, et Xavier Timbaud, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, c'est bien l'économie en question. En toute fin d'émission, donc, je leur ai demandé à chacun de venir avec un chiffre, celui qu'ils voudront, en rapport bien entendu avec une autre actualité de préférence que celle que nous allons couvrir à présent. Donc après avoir réagi peut-être un peu négativement sur le moment à l'élection de Donald Trump, il semble que les marchés financiers se sont assez rapidement repris. On parle même d'un climat plutôt optimiste, mais beaucoup quand même d'observateurs prédisent une période de forte volatilité. L'intention de remettre en cause la régulation financière, c'est notre sujet qui mérite peut-être qu'on revienne un peu en arrière sur ces mesures mises en place par l'administration Obama. En cause, la loi Dodd-Frank. Loi Dodd-Frank, on la résume, qui veut le faire? Catherine Dubochinski, je vous suis.
Bien, ben cette loi Dodd-Frank, en fait c'est l'acte Dodd-Frank qui a été signé en juillet 2010 au lendemain de la crise financière et bancaire, et un peu partout d'ailleurs dans le monde, on a profondément modifié. Qu'est-ce qu'on a cherché à voir? On a voulu des institutions financières qui étaient plus solides. Donc vous avez entendu parler, il y a les ratios de fonds propres qui augmentent, il y a des ratios de liquidité qui arrivent, on essaye de mieux analyser les risques, on ne veut plus qu'il y ait ces banques trop grandes pour ne pas faire faillite, qu'elles ne puissent pas
too
faire
big
faillite.
To fall,
too
oui.
big to fail, voilà. Et donc aux États-Unis, ces nouvelles réglementations, c'était dans cet acte de représentants de Dodd-Frank. Alors il y a eu plusieurs, il y a des centaines de règles dans cet acte. En particulier, il y a à l'intérieur ce qu'on a appelé la règle Volcker, qui est une forme de séparation des activités des banques, forme limitée puisque seul le trading pour compte propre, les activités de spéculation, on va dire pour compte propres deviennent interdites et les relations avec les hedge funds, ces fonds spéculatifs et les fonds de private equity doivent être aussi, il ne doit pas y avoir de relations entre la banque et ces institutions. Mais on a aussi créé des bureaux de protection du consommateur, des bureaux de surveillance des compagnies d'assurance et un conseil de stabilité financière. Et c'est là où, effectivement, l'équipe Trump
a bien
veut
l'intention.
Venir. Alors, je dirais juste que la règle Volcker Obamacare qui a été voté n'est pas encore mise en place effectivement. Les cinq plus grandes banques ont demandé un report de 5 ans, donc jusqu'en 2021. Donc défaire la règle Volcker, ça pourrait être assez facile puisqu'elle n'est pas encore mise en place.
De toute façon, elle n'est pas mise en place. Et défaire la loi Dodd-Frank, ça n'est pas si évident quand même, votre avis, Dominique Plion ?
Oui, alors moi je voudrais, je crois que Catherine Lubouchinski a donné l'essentiel. Hein, parce que moi je voudrais plutôt insister, mais ça reprend ces idées-là, sur l'aspect contradictoire des déclarations du candidat Trump, hein, et même après sa nomination, ou son élection plutôt. C'est qu'en fait, il a indiqué dans sa campagne, par exemple, qu'il était pour un nouveau Glass-Steagall Act, c'est-à-dire en fait qu'il irait plus loin, comme c'était le cas du Glass-Steagall Act, pour la séparation que la règle Volcker, la séparation des banques de détail et des banques d'investissement. Hein. Par la campagne, il a aussi des phrases très fortes du genre « ne pas laisser Wall Street sortir acquitté de ses crimes », entre guillemets, ses responsabilités dans la crise des subprimes. Mais en même temps, il a déclaré qu'il voulait démanteler sérieusement l'acte Dodd-Frank, voté en 2010, comme cela a été dit, et de même qu'il voudrait s'attaquer d'une manière générale, alléger la régulation financière, parce que il reprend l'argumentation de beaucoup de banquiers, d'ailleurs en France aussi, ou en Europe, qui est de dire, nous avons eu, à la suite de la crise, une régulation financière excessive, et c'est elle qui pèse sur la croissance.
Et qui nous entrave, et
qui nous entrave dans la reprise économique dont nous avons tellement besoin.
Oui. Et donc, est-ce que je peux vous interrompre juste une seconde, excusez-moi Dominique Plion, pour rappeler ce Glass-Steagall Act. Hein, c'était une loi qui interdisait...
C'était votée en 1933, sous l'administration
qui est très ancienne,
Roosevelt.
Voilà.
Et là, c'est une...
Et qui donc supprimait, enfin qui interdisait la fusion des activités de banque d'investissement et banque de détail.
C'est
mais elle a été supprimée par Clinton, cette loi, si je me souviens.
Elle a été supprimée par Clinton en 1999,
je crois.
Et cette loi, beaucoup d'économistes et d'historiens, je ne sais pas si mes collègues ici présents sont d'accord, mais enfin, considèrent que ça a été un des facteurs fondamentaux de la stabilité relative du système bancaire des États-Unis après la guerre. Mais faut savoir qu'en France, on a fait la même chose. Dans le programme du Conseil national de la résistance, en 1944-45, il y a eu la création de trois catégories de banques. On a séparé aussi banque de détail ou banque de dépôt, comme on disait en France, banque de financement à moyen et long terme et banque d'affaires. Et je pense qu'on peut dire, il y a quand même un consensus assez grand pour dire que ça a contribué à la stabilité des systèmes bancaires. Et ça a été aboli, puisque la loi bancaire française de 84 aussi a décidé d'abolir. Donc, on est dans une tendance de fond à vouloir revenir sur cette séparation, là, semble-t-il, avec les décisions
qui devraient satisfaire les banques, mais on va voir que ça n'est pas peut-être pas aussi simple que cela. On verra quelle est la réaction, notamment, de Wall Street.
Par rapport à ce que disait aussi Catherine tout à l'heure, que c'est, je crois, aussi le fait qu'ils vont s'attaquer à plusieurs des innovations intéressantes de la loi Dodd-Frank, notamment le bureau qui était mentionné de protection des usagers. C'est un peu la bête noire des banques, notamment parce qu'elle est dirigée d'ailleurs par une personnalité haute en couleur, démocrate, une femme qui est très assez radicale, disons, parmi les démocrates.
Qui a mis une énorme amende à Wells Fargo,
longtemps. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'enviais, parce que ça va peut-être supprimé aux États-Unis, pas en France,
on n'a
pas
eu
en Europe. Et oui, la création de ce bureau, pourquoi ? Parce que ça était un instrument dans les mains des représentants des usagers pour essayer bien de surveiller et d'agir contre des abus, des pratiques, disons, non satisfaisantes des banques. Et les banques veulent à tout prix s'en séparer, supprimer ce type de contre-pouvoir. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. C'est peut-être pas... c'est presque sûr, à mon avis. Les autres mesures, les autres suppressions, c'est moins sûr. La règle Volcker, en effet, on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout, comme pour d'autres mesures d'ailleurs annoncées. Hein, c'est ce qu'on examinera avec les semaines à venir. On va revenir sur la démission de Mary Jo White, qui vient de l'annoncer, hein, qu'elle partirait avec l'administration Obama.
Elle partira en même temps qu'Obama.
Voilà, oui. Présidente donc du gendarme un peu de la bourse américaine, à la fameuse
L'équivalent
SEC.
De l'autorité des marchés financiers français.
Oui. L'équivalent des autorités des marchés. On va revenir sur sa démission, que souhaitait d'ailleurs Donald Trump. Il l'avait même annoncé qu'il avait l'intention de la faire partir. Eh bien, c'est fait, elle part d'elle-même. Xavier Timbaud.
Oui, alors bon, on est un peu dans la Trump fiction là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Supposition.
Alors, on ne sait pas ce qui va se passer à la fois.
Enfin, on sait quand même ce qu'il a annoncé. On n'est pas sûr qu'il le fera.
On sait ce qu'il a annoncé, mais il a annoncé une chose
et parfois
un peu son contraire. En tout cas, c'est difficile de démêler. Tout ça est quand même aussi enrobé de l'art oratoire, on va dire, de Donald Trump, c'est-à-dire de se présenter comme un candidat du peuple. Mais en même temps, on voit bien que dans ces affaires de régulation financière, c'est pas du tout la voix du peuple qui s'exprime, et c'est une toute autre voix, bien au contraire, mais c'est quand même présenté comme la voix du peuple, donc ça surfe un petit peu, disons, sur ce sentiment qui a été tiré après la loi Dodd-Frank et après l'administration Obama, que Obama n'est pas allé assez loin sur ses pratiques de régulation financière, a fini par céder à Wall Street. Et paradoxalement, en disant Obama à la Wall Street, Trump va défaire un des certains nombre des avancées probablement qui avaient été mises en place. Ensuite, là où on est dans la Trump fiction, il faut en avoir bien conscience, c'est que Trump dit les choses, mais encore faut-il que le Sénat et le Congrès
le suivent. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qu'on sait quand même, c'est que le Sénat et le Congrès, en particulier le Sénat républicain, le Congrès républicain, pardon, sont assez sensibles au lobby bancaire. Et ce qui s'est passé sur les marchés. Ça a été assez spectaculaire, c'est de voir que les valeurs bancaires, et en particulier celles des banques d'affaires, ont fait un bond phénoménal après les déclarations.
Plus 8% en une semaine.
Plus 8% en une semaine.
Oui, et Goldman Sachs a pris, Goldman Sachs par exemple, donc une banque emblématique aux États-Unis, a pris 15% depuis l'élection de Trump, ce qui est phénoménal. Enfin, bon, voilà, c'est un élément assez intéressant. Et donc, probablement, on va effectivement vers probablement plus de dérégulation, d'une part. D'autre part, il y a un autre volet qu'il faut rajouter, qui est le conflit que Donald Trump est en train d'installer avec la Réserve fédérale. Alors, la Réserve fédérale a des pouvoirs renforcés dans le cadre de la loi Dodd-Frank, en particulier puisque...
Présidée par une femme également, donc Janet Yellen.
Puisque c'est la Réserve fédérale qui mène en particulier les stress tests, c'est-à-dire qui a un organe de, enfin, qui a une mission de régulation systémique du secteur financier aux États-Unis, qui est contestée aussi par le lobby bancaire et par Trump. Et puis d'autre part, il y a la question des taux d'intérêt bas. C'est-à-dire que le lobby bancaire aujourd'hui, les banques, le secteur financier, sont sur la thèse que les taux d'intérêt bas les empêchent de faire des profits, ce qui les empêche de financer l'économie américaine. Donc on est un peu à front renversé par rapport à ce que nous dit la théorie économique et la politique monétaire. C'est-à-dire que pour stimuler l'investissement, il faut plutôt des taux d'intérêt bas. Et là, ce que nous disent les banques, c'est que bah, quand il y a des taux d'intérêt bas, les banques ne font pas de profit. Et donc, du coup, elles ne font pas de crédit.
Elles sont gonflées parce qu'au deuxième trimestre 2016, elles ont quand même fait des profits records. Hein. Le profit des banques au deuxième trimestre 2016 aux États-Unis, c'est 43,6 milliards de dollars.
Hein. Avec les taux d'intérêt bas,
voilà,
ça marche quand même.
Donc, juste pour le trimestre, hein, ce n'est pas les profits annuels.
Je suis d'accord avec ça. Mais ce qui fait que ça va être difficile d'intégrer tous ces éléments-là dans notre Trump fiction parce que il faut intégrer à la fois ces discours qui sont difficiles à lire, qui ont des postures qui ne sont pas celles qui sont les leurs, qui vont devoir rentrer dans un jeu démocratique qui est quand même déjà assez complexe, et qui repose en plus sur des idées qui ne sont pas toujours totalement justes. Donc qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va par exemple avoir supprimé tout ce qui empêche les banques, enfin tout ce qui est le contrôle du prêt bancaire ou les nouvelles contraintes qui sont posées sur les banques pour les empêcher de prêter à des taux trop élevés, à des consommateurs trop naïfs ou trop en situation de nécessité. Parce que ça fait partie des éléments de la loi Dodd-Frank. Et qu'en même temps, on provoque une hausse des taux d'intérêt. Peut-être que les banques vont effectivement prêter plus à des taux plus élevés, à des ménages en difficulté. Mais peut-être aussi que ça va réarmer une situation bancaire très fragile, du crédit très fragile aux États-Unis, et peut-être que ça va réarmer ce qui a exactement été à l'origine de la crise des subprimes en 2008.
Ce qui complique un peu les choses aussi, c'est que, comme je l'ai un tout petit peu dit en commençant, c'est quand même à la fois une politique de l'offre qu'il fait et une politique de la demande. Il parle de baisser les impôts, il parle de relancer les infrastructures. Donc peut-être une politique de chaos. Un peu de tout.
Ce que je voulais,
pardon, Catherine Lebochinski. Puis Dominique
Crillon, qui est assez drôle et qui va un peu dans la suite de ce qui vient d'être dit, c'est que sur CNN, il a quand même clamé « je suis le roi de la dette, j'adore la dette ». Donc effectivement, s'il supprime les fonds propres importants requis et donc qui permet de repartir avec l'effet de levier, on peut retourner sur une crise de la dette. Privé ou public, étant donné le déficit budgétaire, s'il fait ce qu'il a annoncé, mais ça encore, on n'en doute pas. Mais il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts chez Trump. Hein. Et ça, c'est grave. Parce
c'est compliqué.
Normalement, la réglementation américaine dit bien que
chez lui et dans son équipe.
Un président se doit de se dégager tout conflit d'intérêts en confiant ses entités, donc à des trusts qu'ils appellent aveugles. C'est bien, il a confié ses trois enfants qui font partie de son équipe, donc ça c'est un premier point. Il se propose, comme c'était souligné, comme un populiste anti-finance, mais c'est pas vrai, il a 650 millions de dollars de dettes. Son organisation propre, et ça c'est compte non tenu des diverses ramifications, c'est-à-dire des participations que son organisation a dans d'autres projets immobiliers. Il y a un projet immobilier dans New York, dans Manhattan, où le
projet lui-même a 950 millions de dettes et Trump Organisation une participation de 30%. Donc, je veux dire, il est extrêmement endetté et dépendant des banques et auprès de la Bank of China. Donc, les mesures de rétorsion, je veux dire, non, c'est effectivement de la Trump fiction.
Et effectivement, entre les affaires de Trump et Trump président, le conflit d'intérêt est visible.
Il y a des banques, en effet, Bank of China, mais il y a aussi Goldman Sachs, qui est un de ces gros créanciers. Et
UBS,
d'ailleurs, il s'apprête aussi à nommer un secrétaire d'État au Trésor, ancien de Goldman Sachs, probablement. Un
domestique multiple. Ça ne sera pas le premier.
Ça ne sera pas un
scoop. Obama l'a fait. Barroso était un ancien de Goldman Sachs. Enfin, Goldman Sachs a une telle capacité d'attraction aujourd'hui que pratiquement toute personne...
C'est un institut de formation, on va dire.
Oui, toute personne compétente dans le monde est passée par Goldman Sachs. Bon, à part nous, autour de cette table, mais...
S'ils n'ont pas fait l'ENA, ils ont fait Goldman Sachs.
Tout va dans la même direction, quand même. De même que, d'ailleurs, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais qui s'apprête à nommer un dénommé Ebel, dirigeant d'un lobby climato-sceptique à la tête de l'agence d'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir quand même un ensemble de nominations probables de gens qui sont particulièrement impliqués dans les lobbies dans les différents secteurs de l'économie.
J'ai l'impression
supposés.
Que vous ne soutenez pas trop Trump.
Moins que vous, oui, apparemment.
Moi, je ne sais pas, mais en tout cas...
Alors, soyons sérieux. Oui, pardon, sûr. Dominique Pignon n'a pas terminé.
Non, je n'ai pas terminé parce que je crois que ce qui sera intéressant, ne restons pas aux États-Unis et peut-être regardons les implications.
Finalement.
Ce qui m'inquiète aussi, c'est par rapport aux implications que ça peut avoir chez nous en Europe.
C'était le sujet que je posais, Dominique Pignon, en effet.
Voilà.
Pourquoi est-ce que ça va toucher l'économie mondiale?
Non, ça va.
Et pourquoi est-ce un sujet si important, la régulation?
Restons sur les questions de régulation financière.
Oui.
Au moment où déjà les Britanniques, avec le Brexit, se posent des questions sur l'avenir et le positionnement de la City. Probablement en essayant de déréguler encore plus pour asseoir sa suprématie, disons, en tant que place financière en Europe. Eh bien, il est probable que ceci va aller dans le sens de l'ensemble des autorités, y compris en France, qui vont dire, attendez, on peut plus rester sur une régulation aussi contraignante. Et le lobby bancaire français, de ce point de vue-là, on peut lui faire confiance pour regarder ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y aura nécessité de s'aligner davantage sur le modèle américain. Et donc là, au risque autrement d'avoir des arbitrages réglementaires qui seraient très défavorables aux places financières européennes. Donc, c'est-à-dire les acteurs essayant d'aller loger leurs opérations de plus en plus sur les places américaines si jamais la régulation y est moins contraignante. Donc, c'est extrêmement dangereux potentiellement par rapport à la question de la stabilité future du système bancaire, non seulement européen mais international. C'est-à-dire qu'il va y avoir un risque de contagion, voire de surenchère sur les questions de dérégulation et donc je suis très inquiet.
Ce qui veut dire que même vous, Dominique Pignon,
si ce scénario s'applique.
Voilà, mais ce qui veut dire que même vous, en tout cas, le courant de pensée auquel vous appartenez, qui avait très souvent critiqué justement ce problème de dérégulation financière, vous reconnaissez qu'on avait quand même bien progressé depuis 2008. On avait réussi à corriger certains des défauts
que Trump va
à nouveau démolir.
Non, je pense qu'il y a bien sûr, il y a eu des avancées, mais elles ont été certes timides, mais d'autre part, non. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en Europe, il y a des projets qui nous inquiétaient. On l'a indiqué à plus d'une reprise dans les réformes en cours, c'est notamment l'union des marchés de capitaux, qui est une réforme d'alignement, en gros, de la finance européenne sur le modèle anglo-saxon. Et ça va être... Les partisans de ce modèle vont être renforcés par ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je pense que là, il y a quelque chose
qui est... On repart en arrière.
En tout cas, je le crains. Voilà.
Oui. Petite leçon quand même d'économie, et j'essaie de prendre le point de vue de Donald Trump. En faisant de la dérégulation financière et le complément qui sont les baisses d'impôts, évidemment, pour les plus hauts revenus, les entreprises, ce qu'il a en tête, c'est pas non plus de ruiner ni l'Amérique, ni l'économie mondiale, mais c'est de doper la croissance. C'est en tout cas l'argument qu'il prend. Pourquoi n'est-il pas bon cet argument, de votre point de vue?
Parce que toute la construction de Dodd-Frank...
Il veut libérer les forces.
Toute la construction de Dodd-Frank, elle a été de répondre aux soucis de prudence ou de ratio prudentiel et de situation prudentielle du secteur financier, tout en ayant le moins d'impact possible sur la capacité du secteur financier à allouer les capitaux sans limite. Ce qui fait que Dominique Pignon fait un peu la grimace en disant c'est pas la régulation qu'on aurait attendue, parce que c'est quand même une... Et c'était la critique qui était faite à Barack Obama, c'est une régulation qui est quand même très pro-finance, dans un certain sens. Déjà, elle est un peu une régulation à minima.
On pouvait aller plus loin encore.
On pouvait aller plus loin. En tout cas, on touchait pas à cet élément qui est assez clé, qui est l'idée selon laquelle beaucoup du pouvoir économique s'est transféré vers les banques. Et ça, Dodd-Frank ne l'empêche pas. Il cherche à stabiliser le secteur financier, il cherche à en organiser plus la transparence, à éviter les abus, alors, qui sont de multiples natures, mais en particulier cet abus terrible qui a beaucoup traumatisé les Américains, qui est celui du « too big to fail ». Parce que « too big to fail », ça veut dire que quand vous êtes en situation de faillite, Bah, en fait, vous vous tournez vers le contribuable. Donc, c'est ce qu'on appelle la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Oui, voilà. Et donc, ça, c'était quelque chose qui a beaucoup traumatisé le contribuable américain et qui, effectivement, a été dénoncé sous multiples formes, mais comme cette espèce d'un pouvoir démesuré de la finance, puisqu'elle peut toujours tourner la situation à son avantage. Dodd-Frank visait à finalement essayer, dans un monde qui reste imprégné de la domination financière,
quand même,
mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je ne suis pas sûr que Trump réponde vraiment à un problème de bridage de la finance, donc débris d'une finance qui serait empêchée pour financer l'économie. Et je ne pense pas qu'on puisse attribuer les difficultés de l'économie mondiale au fait que la finance est aujourd'hui sous le joug d'une régulation excessive du type Dodd-Frank. Voilà. Et donc, mais par contre, le vrai risque, il est que on accentue en fait le pouvoir de la finance et on réouvre une période d'instabilité majeure du point de vue financier.
Mais je continue à me faire l'avocat du diable, on favorise le crédit, on laisse peut-être plus de liberté aux emprunteurs.
Non, mais ça partait d'un bon
sentiment. Catherine Lebochinsky.
Ça partait d'un bon sentiment quand on a dit que les banques devraient prêter aux pauvres. Hein. C'est quand même à l'origine, si on caricature, c'est l'origine de la crise, parce que les banques ont prêté à des agents économiques qui n'avaient pas de capacité de remboursement, puisque pas
donc
de revenus, pas d'emploi,
passé,
etc. Donc là, on est un peu pris, on a voulu l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça n'a pas marché. Alors, Trump, il dit, il faut prêter, avec les nouvelles règles, les banques prêtent pas, là, elles pourront prêter. Faut quand même se souvenir que les crises bancaires, dans la majorité des cas, un peu partout, c'est une distribution excessive de crédit, par rapport aux fonds propres détenus, quand même, et puis par rapport au taux de croissance de l'activité économique. Et c'est surtout cet aspect-là que la nouvelle régulation essaie de contenir.
De corriger.
C'est-à-dire que le crédit soit certes accordé, mais avec des fonds propres en proportion.
Ouais. Je cherchais le nom de la... Ah oui, Paulson, autre milliardaire qui rentre dans l'équipe de Donald Trump et qui lui aussi était très très sérieusement mis en cause dans l'affaire des subprimes, parce qu'on était sur cette difficulté-là.
Oui,
où
là,
il
c'est
avait...
vraiment les cow-boys de la finance.
Voilà, c'était le côté cow-boy de la finance où ils ont joué très gros et gagné encore plus.
Dans la régulation, il y a toujours un arbitrage entre...
Mais en ruinant, on le sait,
beaucoup de... Permettre au système financier de jouer son rôle principal qui est de financer, d'apporter les financements nécessaires, et d'autre part... l'arbitrage avec l'objectif de stabilisation du système bancaire. Il y a un équilibre qu'on peut critiquer, qu'on a essayé de trouver. Et là, ce qu'on peut craindre si les réformes annoncées ont lieu, c'est que ça soit le balancier aille plutôt en faveur de soi-disant la croissance, et avec le risque au prochain coup de Trafalgar, c'est-à-dire lorsqu'il y aura une grande banque systémique qui sera en difficulté, ce qui peut arriver, et ça peut venir de Chine, par exemple. C'est les quatre principales banques mondiales, maintenant, systémiques, sont chinoises. Donc si une grande banque chinoise est en grande difficulté, avec les effets de contagion, les liens qu'il y a entre les banques, etc., ça peut aller très vite. Et donc, c'est ça le grand danger. Et l'équilibre, s'il est détruit, risque d'être problématique pour l'avenir. Et c'est ça qu'on peut craindre dans une période où on n'est pas sorti de la crise financière, contrairement à ce que certains pensent, notamment avec la montée de la dette au niveau international. On est vraiment on est sur un volcan. Donc c'est plus que problématique de voir quelqu'un qui dit, je vais alléger les contraintes. Alors qu'en plus, et le keynésien qui est Xavier Tambaud ne sera pas en désaccord, je pense que ce qui bride la croissance, c'est pas tant le problème d'une finance insuffisante, c'est plutôt une insuffisance de la demande. C'est-à-dire d'activités qui s'adressent, de demandes adressées aux entreprises, qui fait que l'investissement est insuffisant, et ainsi de suite. Donc, c'est pas le problème de la finance. Donc, c'est pour ça que c'est des mesures qui ne seraient pas d'une efficacité redoutable, en plus, si on décidait demain de débrider la finance.
Alors, ma question suivante sera, mais pourra-t-il le faire? Vous avez un peu dit que ce n'était pas si évident que ça, Xavier Tambaud.
Avant ça, je voudrais revenir sur un argument qu'a évoqué Dominique Lion. Bon, il va me traiter d'éternel optimiste, mais je pense quand même que c'est important. Et en plus, cet argument, il a une autre application au domaine climatique. C'est l'idée selon laquelle, à partir du moment où les États-Unis abandonnent ce cadre de régulation, qui était un compromis et qui, d'un certain point de vue, pouvait être considéré comme vraiment la régulation à minima, en fait, ça place l'Europe face à ses responsabilités en matière de régulation. Et le Brexit accentue encore ça et même ouvre en Europe une voie d'action, puisqu'il n'y a plus les Britanniques pour s'opposer à toute forme de régulation. Dans toutes les discussions qu'il y a eu en Europe autour de la régulation financière, les Britanniques étaient toujours oui. un point pour dire attention, il ne faut pas trop réguler, si on régule trop, vous allez tuer la finance, si vous tuez la finance, etc. Voilà. Alors, l'Europe aujourd'hui, sans les Britanniques, et sans, disons, avec le côté débridé et chaotique des États-Unis de Trump, peut très bien se trouver dans une situation à vouloir définir une régulation plus stricte et appliquer ce que aujourd'hui, par exemple, recommande presque le FMI, donc c'est loin d'être négligeable, une forme de contrôle de capitaux pour isoler les zones financières les unes des autres.
C'est-à-dire prendre la main un peu plus, finalement.
Et le dogme de la libre circulation des capitaux sur la planète est un dogme qui, aujourd'hui, est fissuré. Et il n'est pas scandaleux, aujourd'hui, de dire, y compris dans des assemblées internationales comme le FMI, que c'est possible de contrôler les flux de capitaux, c'est possible d'avoir des zones avec des régulations financières différentes, c'est possible de mettre l'équivalent d'un passeport financier qui s'applique à tous les établissements financiers. Et ça pourrait changer la donne en Europe.
Catherine Lebochinsky, on conclut là-dessus sur l'avenir. Que là, pensez-vous c'est... de cette vision optimiste qu'il faut relancer
elle est très optimiste parce que le contrôle des capitaux, ou la mise en place du contrôle des capitaux dont le FMI parle, c'est surtout pour les pays émergents. Mais pour des grandes économies occidentales qui sont très ouvertes sur l'extérieur, ça devient très très compliqué. Je vois pas bien ça.
Très ouverte sur l'extérieur, l'Europe aujourd'hui, de toute façon, c'est une zone qui est capable largement, par l'épargne qu'elle dégage, de financer son activité. En fait, elle est surtout ouverte pour exporter ses capitaux.
Dominique Pléon,
je suis complètement d'accord avec un point qu'a énoncé Xavier Tambaud, c'est qu'il est possible, et il est même souhaitable, de renforcer le contrôle des capitaux. Et par exemple, l'Europe s'apprête à voter une directive aussi sur la taxation des transactions financières. C'est quand même intéressant. Bon, sauf que...
Que deuxième vous réclamez
point,
depuis si longtemps.
Oui, tout à fait. Oui, je sais que Catherine n'est pas du tout d'accord.
C'est complètement inutile. Oui,
il n'y a pas, mais ça viendra sur
la table. On fera un sujet là-dessus, c'est promis.
On fera un sujet là-dessus. En revanche, c'est naïf que de croire que le lobby bancaire, qui aujourd'hui a un pouvoir et est dans une relation aussi de conflit d'intérêts avec les autorités, notamment en France, je ne vois pas comment le pouvoir politique aujourd'hui serait en mesure de pouvoir et de vouloir imposer ce type de régulation.
Eh bien, c'est à suivre. Merci à tous les trois. Et l'on passe aux chiffres que vous avez apportés. On commence avec vous, Catherine Lebochinsky, votre chiffre.
Eh bien, j'apporte un petit chiffre pour remonter le moral aux épargnants, puisqu'on parlait de finance et d'épargne, quand même un petit peu une bonne nouvelle pour les investisseurs. Le stock de dette à taux négatif a diminué depuis l'élection de Trump. L'a baissé de 1,4 milliard.
Le stock de dette mondial, non ?
Le stock de dette à taux négatif dans le monde.
Dans le monde.
Ça a baissé de 1400 milliards, pardon. Elle ne s'élève plus qu'à 8 700 milliards de dollars.
Ce qui est effarant quand même, on est d'accord.
Voilà.
Bon, et comment l'expliquez-vous très rapidement ?
Ah bah parce qu'il y a une remontée des taux d'intérêt qui avait déjà eu lieu un petit peu aux États-Unis, mais surtout avec un phénomène de contagion. Alors,
comme on l'a dit. Merci Catherine Lebochinsky. Votre chiffre, Dominique Pion.
Alors moi, c'est 1,2. C'est-à-dire 1,2 milliard d'impôts et de pénalités qui ont été récupérés par l'administration fiscale depuis l'affaire Panama en France. Donc c'est assez intéressant. Sauf que, en fait, quand on sait qu'il y a... entre 60 et 80 milliards d'évasion fiscale, c'est très peu. Alors, on est sur le bon chemin, mais le chemin à parcourir est absolument considérable encore. C'est trop timide, quoi, hein, quelque sorte, même si l'actuel ministre de l'Économie et des Finances s'en réjouit et s'en vante.
Merci, Dominique Pion. Enfin, Xavier Tambaud, quel chiffre portez-vous ?
Mon chiffre, c'est 7. 7, c'est le nombre d'années qu'il faudra, au rythme actuel, sur les 6 derniers mois, pour que le taux de chômage de la zone euro retourne à son niveau de 2007. Cette année encore. Et ce qui est intéressant, vous avez vu...
Les prévisions de vote de l'OFCE, de chez vous ?
Alors, en l'occurrence, c'est un constat sur les 6 derniers mois.
C'est une extrapolation
si vous voulez, sur les 6 derniers mois. Vous avez constaté que l'INSEE a donné un chiffre de chômage qui est remonté en France. En fait, ce phénomène-là se produit un peu partout dans la zone euro. Il y a un ralentissement de la reprise et une diminution plus lente du chômage. Ce qui fait qu'on est vraiment dans cette situation d'enlisement,
Et les chiffres cette semaine ne sont pas très bons à nouveau, ce qu'il faut quand même rappeler aussi. On verra la suite. Merci encore à tous et donc 7, on retient. Catherine Lebochinsky, on est ravis de vous avoir reçu. Dominique Pléon, Xavier Tambaud aussi. Merci aussi à notre équipe, Laetitia Coya, qui réalise notre émission aujourd'hui avec Jacques Hubert, Laurence Genepin, bien sûr, préparation, documentation. Venez nous retrouver sur Twitter, vous êtes les bienvenus avec vos observations, vos remarques, et faites passer aussi bien sûr notre podcast qui est tout à fait disponible. Et sur notre site, vous pourrez trouver pas mal de renvois à tous les articles et tous les lois aussi, enfin pas mal de choses dont nous avons pu parler aujourd'hui. À samedi prochain, très bonne journée à tous.